Les cours du Collège de France, Denis Duboul, chaire Évolution du développement et des génomes.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce dernier cours de l'année 2025. Nous nous étions arrêtés la semaine passée sur une étude assez compliquée, je dois bien l'admettre, mais qui montre une des façons vraiment actuelles de regarder ces configurations de la chromatine, non pas au niveau de milliers de cellules, mais au niveau cellulaire. Donc d'aller dans chaque noyau et de poser la question, dans chaque noyau, quelles sont les configurations chromatiniennes des deux copies d'un locus particulier. Et pour ça, les auteurs utilisaient cette approche par microscopie à super résolution, qui, je le mentionnais la semaine passée, permet en fait d'aller en dessous de la barre de diffraction de la lumière, donc en dessous de 200 nanomètres. Et ces auteurs ont donc étudié le locus Sonic Hedgehog, un locus dont on a déjà amplement parlé, on en reparlera un peu plus tard, mais cette fois non pas du point de vue du développement du membre, mais du point de vue du développement du système nerveux central, du thalamus. Vous vous souvenez, cette ligne de cellules qui fait la différence entre le thalamus dorsal et le thalamus ventral, cette zone intrathalamique limitance, qui exprime très fortement ce Hedgehog. Donc c'est un cas de figure extrêmement efficace pour regarder des cellules négatives, des cellules positives. Alors je vous rappelle simplement ce locus, juste pour remettre un peu les choses en place. Ici, le promoteur de ce Hedgehog avec un enhancer SBE1, qui travaille dans ces cellules. Et puis à l'opposé du paysage de régulation, presque une mégabase, 850 kilobases en amont, un autre enhancer SBE5 qui travaille aussi fortement dans ces cellules du système nerveux. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce que ces enhancers rentrent en proximité l'un de l'autre, etc. Alors vous vous souvenez que ces auteurs ont biné cette région, c'est-à-dire ils ont divisé cette région en sous-régions de 30 kilobases. Et une fois les structures chromatiniennes établies par microscopie à super résolution, ils peuvent poser la question, dans cette structure, quelle est la position de ce bin particulier? Est-ce qu'elle va être ici, ici, ici? Est-ce que ça va changer? C'est donc ça l'avantage, le pouvoir, la puissance de cette approche. Et donc ils vont remarquer ici dans cette représentation graphique qui vous montre la proximité, donc là on n'est plus dans un profil d'interaction chromosomique, c'est simplement, ça reflète la proximité entre deux de ces bines. Et vous voyez que le bin qui est ici, c'est 30 kilobases qui contiennent le promoteur Sonic Hedgehog et le premier enhancer SBE1, et le bin qui est ici, qui contient l'enhancer SBE5, vous voyez, vous remontez, tac, 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 et vous voyez ces deux points ici. Ça veut dire qu'effectivement, ces deux enhancers, dans certaines configurations, sont à proximité l'un de l'autre. Alors ces configurations, et c'est là vraiment l'intérêt de cette étude, ils en trouvent quatre. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un système où on a quelque chose de fixé, qui fonctionne pas. Là, on a quatre configurations majeures, il y en a peut-être plus. Donc ces configurations sont soit quelque chose de très condensé, soit quelque chose de moins condensé. Et ces petits ronds là, vous voyez, c'est la position des bines dans ces configurations chromatiniennes. Alors les pourcentages de ces configurations sont montrés en dessous ici. Et de façon intéressante, les auteurs remarquent qu'en fait, la configuration dans laquelle les deux bines qui contiennent les enhancers, donc SBE1 et SBE5, la configuration dans laquelle ces deux bines sont les plus proches, et vous voyez ici, c'est 60, dans l'ordre de 60 nanomètres. On voit ici cette distance, donc une distance qui ne serait pas visible en microscopie, évidemment. Là, on est vraiment dans des petites distances. Eh bien, cette configuration-là n'est présente que dans 18% des cas. Alors, les auteurs estiment, en quelque sorte, que cette configuration sera la configuration active, puisque les bines sont proches du promoteur, etc. Donc, ils vont en conclure que c'est probablement cette architecture-là qui va activer le gène Sonic Hedgehog. Et ils ont cette remarque que je mentionnais à la fin de mon cours de la semaine passée, où ils disent que c'est seulement 18% des cas, mais en fait, peut-être ça a une signification. Hein. Peut-être que l'idée est de ne pas avoir trop de production de Sonic Hedgehog. Et donc, c'est cette configuration à 18% qui a été sélectionnée comme la bonne configuration, entre guillemets. Voilà, conclusion de cette étude, c'est là où je voulais en venir. C'est que, à proximité de cet enhancer SBE5, se trouvent des sites CTCF. Et donc, les auteurs proposent cette sorte de feuille de route. Hein. On a des configurations qui sont basées sur la présence de CTCF et qui vont produire des sortes de squelettes hein, différents au sein desquels ces interactions vont pouvoir se jouer. Et donc, ils parlent de CTCF comme d'un facteur qui pourrait license, donc qui pourrait donner la possibilité, autoriser en quelque sorte. Hein. Donc d'abord, il y a une mise en place de ces architectures par CTCF, la coesine, tout ce qu'on a discuté. Et une fois que ces architectures sont mises en place, on peut commencer à travailler. Concernant CTCF, c'est évidemment un point de conclusion intéressant parce que ça nous ramène à quelque chose que nous avions déjà discuté, en fait, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, parce que quand vous regardez la topologie de ce locus, vous avez ici le promoteur Sonic Hedgehog, cette énorme distance avec l'enhancer ici SBE5, vous voyez que cet enhancer est pratiquement, en fait, est dans un intron du même gène, dans un autre intron duquel se trouve cette fameuse ZRS, donc cet enhancer qui fonctionne dans les membres, dont on a vraiment beaucoup parlé. Donc on a ces deux enhancers, un qui travaille dans le système nerveux ici, et un qui travaille dans les membres, qui sont positionnés dans des introns différents de ce gène. Et le fait que ces auteurs mentionnent que CTCF pourrait, en quelque sorte, créer les conditions dans lesquelles cet enhancer neural pourrait toucher le promoteur de Sonic Hedgehog, eh bien, ça ressemble exactement à la situation que j'avais décrite avec cette fameuse famille brésilienne hein, qui présente ce phénotype extrêmement fort, qui est ce qu'on appelle une acheiropodia, donc absence de main, keiros, de pied, podos, hein, donc une absence totale. Et c'est une famille qui est très consanguine, hein, cette mutation homozygote qui provient du Brésil, qui est rapportée dans une publication en 1975. Et dans les années 90, lorsque l'on commence à pouvoir faire de la génétique moléculaire sur ce locus Sonic Hedgehog, on s'aperçoit qu'en fait, lorsque l'on enlève cette ZRS, donc cet enhancer des membres, eh bien on a quelque chose chez la souris qui est pratiquement identique à ce phénotype. C'est ce qu'on appelle acheiropodia. Alors attention, ne confondons pas ce phénotype avec ce que je vous ai montré sur les mutations ponctuelles de la ZRS, qui, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, donnent des polydactylies. Hein? Vous vous souvenez, les chats de Hemingway, par exemple, qui ont ces membres polydactyles, ont des mutations ponctuelles dans la ZRS. Ça a l'air d'être un peu un paradoxe, mais souvenez-vous que la ZRS est remplie de protéines qui l'empêchent de s'exprimer trop fortement dans le membre. Donc lorsque vous mutez la ZRS, vous enlevez ces protéines, Sonic Hedgehog est exprimé trop fortement, et vous avez une polydactylie. Là, on n'est pas dans cette situation. Là, on enlève tout. On enlève la ZRS. Il n'y a plus d'activité Sonic Hedgehog dans les membres. Il n'y a plus de mains, il n'y a plus de pieds. C'est en quelques années plus tard que cette condition va être résolue, en fait, enfin, décrite, disons, par le laboratoire de Tsipouras. Et ils vont prendre de l'ADN, regarder ce qui se passe dans ces patients, Ils vont s'apercevoir qu'il y a une délétion qui est dans le gène LMBR1. Ils ont dit, ben voilà, c'est clair. Sauf que cette délétion ne touche pas la ZRS, puisque la ZRS est dans cet intron-là et que la délétion enlève cet exon numéro 4. À cette époque, point d'interrogation, effectivement, on a une délétion, mais elle ne touche pas l'enhancer, et pourtant on a un phénotype qui ressemble à ce que l'on obtient lorsque l'on enlève l'enhancer chez la souris. Et il faut attendre plusieurs années, en fait, hein, une publication récente du laboratoire de Nadal Aitouf à San Francisco, et ils vont reprendre un membre de l'ADN de l'ADN d'un membre de ce, qui souffre de ce, cette famille qui souffre de cette délétion, et ils vont caractériser cette délétion. Ils vont s'apercevoir que c'est une délétion de à peu près 12 kilobases qui enlève l'exon numéro 4 et qui rajoute deux nucléotides, peu importe. La première chose qu'ils font, évidemment, c'est de vérifier que l'ADN délété ne contient pas d'enhancer membre, évidemment, qu'on ne s'est pas trompé sur cette ZRS. Donc ils vont faire un transgène classique, hein, qu'on a vraiment décrit à maintes reprises maintenant, un promoteur, un LacZ, une fluorescence, peu importe, et ils s'aperçoivent que tout ce morceau d'ADN qui est enlevé n'a aucune activité enhancer. Donc, on le savait, on sait que le gène LMBR1 n'a rien à voir dans le développement des membres. Hein, souvenez-vous, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un hôte, en fait, c'est un gène qui accueille des enhancers dans ses introns, mais qui lui-même n'a rien à voir dans le développement des membres. Donc les 12 KB perdus n'ont pas d'activité enhancer. Par contre, lorsque ces auteurs regardent si cette délétion contient des sites CTCF, ben ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a en fait, dans ce morceau d'ADN délété, il y a 3 sites CTCF qui sont liés. Et puis ils s'aperçoivent également que ces sites accumule de la coésine. Donc, souvenez-vous, le principe d'extrusion de loupe, hein, de boucle, donc on a cette coésine qui sort de l'ADN et puis qui bloque avec des sites CTCF, ben, on voit que ça se passe dans ce morceau qu'on a enlevé. Donc en fait, on n'a pas touché la ZRS, mais on a touché une séquence à proximité qui est capable de bloquer un loop et d'accumuler de la coésine. Donc à partir de là, ces auteurs vont se dire, on va vérifier si effectivement cette séquence précise a un contact avec le promoteur de Sonic Hedgehog, et non pas la ZRS. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle une approche 4C, on l'a décrit il y a 2 semaines, où en quelque sorte, ils se positionnent sur le promoteur Sonic Hedgehog, et la question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que je vais contacter depuis ce promoteur, hein, ou qu'est-ce qui va me contacter, d'accord ? À partir de là, qui me touche ? Et ils vont avoir ce résultat. Là, on a la situation normale, et vous voyez que dans la situation normale, le promoteur, ici, le gène Sonic Hedgehog, contacte très fortement ce morceau-là, qui est en bleu, hein, qui est le morceau qui est délété dans cette famille. D'accord. Et vous voyez que dans l'ADN mutant, quand on se place sur Sonic Hedgehog et qu'on pose la même question, eh bien, on n'a plus de contact ici. Par contre, on augmente très fortement les contacts ici. Regardez, comparé avec là, on augmente fortement avec un morceau d'ADN qui contient un autre site CTCF. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on contacte fortement ces sites CTCF qui sont à proximité de l'enhancer. Quand ce morceau d'ADN est délété, bien le contact est réalloué, en fait, est réorienté vers un autre site CTCF qui se trouve quand même assez loin de la ZRS. Alors, il regarde ensuite plus précisément, en focalisant vraiment sur cette partie-là. Et ce que vous voyez là, c'est la séquence qui est délétée chez le mutant, dans le type sauvage, donc c'est rouge. Vous voyez un peu de rouge ici ? Ça, c'est le contact avec la ZRS. Donc en fait, lorsque l'on contacte avec cette séquence qui est pleine de sites CTCF, on apporte la ZRS. Donc la ZRS rentre en contact avec le promoteur. D'accord ? Dans le mutant, vous voyez qu'il n'y a absolument plus rien ici. Mais l'ADN est présent, c'est la ZRS. Il n'y a plus aucun contact. Par contre, vous voyez que les contacts, ici, sont beaucoup plus forts. On augmente le rouge avec cette séquence qui est positionnée là. Et la conclusion de cette étude, en fait, qui est une étude simple, mais qui est propre, qui est vraiment une étude avec une conclusion formelle, on a en présence de cette séquence CTCF, ici, on va avoir une boucle qui va apporter l'enhancer proche du promoteur. Lorsque cette séquence est enlevée, délétée, eh bien, cette séquence-là, qui normalement est moins utilisée, va être engagée dans la boucle, proche du promoteur, et puis la ZRS, elle reste en plan, en fait, trop éloignée du promoteur pour pouvoir agir. Donc on a un promoteur fonctionnel, un gène fonctionnel, un enhancer fonctionnel, et un phénotype qui est un phénotype de perte de fonction totale. C'est vraiment un cas de figure intéressant. C'est un cas de figure prototypique, en fait, de ce qu'on trouve à plusieurs locus génétiques dans ces fameuses enhanceropathies dont je vais vous parler dans quelques minutes. Alors, on a d'autres façons, en fait, de rapprocher un enhancer d'un promoteur particulier, et on en découvre pratiquement chaque 6 mois une nouvelle façon, soit qui implique des séquences d'ADN, soit qui n'implique même pas de séquences d'ADN, dans le sens où ce sont des protéines qui ne lient même pas l'ADN. Et je voulais très rapidement vous présenter deux autres façons de contacter l'ADN. Une étude qui n'est pas encore publiée, en fait, qui a été déposée sur un site d'archivage, qui est très très récente, et qui justement implique le même locus Sonic Hedgehog. C'est en fait une question qui est posée par le laboratoire de Evgeny Kvon aux États-Unis et qui pose la question suivante. Comment se fait-il qu'il y ait des enhancers qui fonctionnent à une mégabase de leur promoteur, d'autres qui fonctionnent à 50 kilobases, des facteurs parfois de 1 à 20 dans les distances entre les enhancers? Y a-t-il quelque chose d'intrinsèque aux enhancers qui font qu'ils fonctionnent soit à grande distance, soit à courte distance? Est-ce que les enhancers à longue distance sont ontologiquement différents des enhancers à courte distance? Ou bien est-ce que la distance, ce n'est pas quelque chose qui influence sur la spécificité des enhancers? Et en fait, pour répondre à cette question, ils vont faire une expérience qui est logique, mais c'est faire des échanges d'enhancers. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est prendre une fois de plus ce locus Sonic Hedgehog et puis poser la question suivante. Si je enlève la ZRS et que je la remplace par un enhancer qui fonctionne dans les membres, mais qui fonctionne à distance courte, qu'est-ce que j'obtiens? Et donc, ils vont sélectionner 5 enhancers qui tous fonctionnent, sans entrer dans les détails, vous voyez ici, qui tous fonctionnent dans le bourgeon du membre précoce, donc qui fonctionnent dans des cellules dans lesquelles l'enhancer Sonic Hedgehog fonctionne, hein, en principe, donc ce sont des enhancers qui ont une spécificité comparable, mais vous voyez qu'ils travaillent à des distances différentes. Face aux 850 kilobases de Sonic Hedgehog, on a cet enhancer ici qui travaille en amont d'un gène qui s'appelle SAL1, mais peu importe, 410 kilobases, ici 174, et là 71 kilobases, et qu'on passe de 1 à 10, en fait. Donc la question, ben c'est simple, pourquoi est-ce que la distance va influencer la spécificité de l'enhancer? Ou est-ce que tous les enhancers vont fonctionner à grande distance? Et donc, la première expérience qu'ils font, c'est simplement de faire des échanges. C'est-à-dire, soit de faire des échanges instantanés, ça peut se faire par CRISPR, hein, par recombinaison homologue, soit on peut enlever la ZRS, faire une sorte de site d'atterrissage, et puis ensuite venir recombiner des NF. Ça, c'est de la technologie qui est relativement simple aujourd'hui. Et donc, ils vont produire des souris, qui sont des souris qui sont normales, excepté le fait qu'elles ont toutes un enhancer différent à la position de l'enhancer hedgehog. Et le résultat, vous le voyez là. Là, c'est la situation contrôle normale avec l'enhancer hedgehog, donc le membre normal. Ici. Et puis là, vous avez les quatre remplacements d'enhancer avec celui de 410 paires de bases, etc., etc. Et vous voyez que dans tous les cas, ils obtiennent des souris qui ont un phénotype d'achéiropodia. Ces souris, visiblement, n'ont pas d'activité hedgehog. Et en fait, c'est vérifié là, puisque vous voyez que dans les bourgeons de membres, vous n'avez pas d'expression du gène hedgehog. Donc, la conclusion, c'est qu'à cette grande distance, aucun de ces quatre enhancers ne peut fonctionner. Pourtant, lorsque vous prenez chaque enhancer et que un par un vous le mettez dans un système de transgène classique, c'est-à-dire enhancer, promoteur, LACZ, etc., ils fonctionnent tous. Donc tous ces enhancers sont parfaitement capables d'activer le promoteur de Sonic Hedgehog quand ils le touchent. Aucun de ces enhancers n'est capable d'activer Sonic Hedgehog quand il se trouve à 800 kilobases, sauf bien sûr l'enhancer de Sonic Hedgehog. Donc, ces auteurs se disent, c'est quand même curieux. Comment se fait-il, par exemple, que cet enhancer-là du gène SAL1, qui est 400 kilobases en amont du promoteur, soit incapable de faire le travail, alors que l'enhancer de Sonic Hedgehog n'est qu'à deux fois la distance, finalement. Et je vous rappelle que on n'est pas dans un système linéaire, hein, c'est pas une distance linéaire, c'est quelque chose qui est enroulé, donc ça a relativement peu de sens, finalement, cette différence entre 400 kilobases et 800 kilobases. Ces auteurs se disent, on va peut-être regarder un peu plus précisément la séquence de cet enhancer SAL1, et ils vont faire un alignement de séquence. Alors là, on retombe sur le premier cours, la première leçon de ce cours, en fait, où je vous montrais comment ces enhancers étaient isolés, identifiés il y a 40 ans, hein, c'est-à-dire par simple alignement de séquence. Et là, vous en voyez un exemple qui est vraiment, vraiment intéressant. Ce que vous voyez, c'est en fait l'alignement entre la séquence humaine et puis le chimpanzé, la souris, le dauphin, ici un marsupial, le poulet, les oiseaux, les amphibiens et les poissons. Et en fait, vous voyez que le plus loin on va dans la phylogenèse, le moins de séquences de conservation de séquences on a. Hein, ces petites barres noires sont des bases d'ADN conservées. Donc où c'est très noir, c'est que c'est conservé. Hein. Et vous voyez par exemple que lorsque l'on regarde ici, les amphibiens ou les oiseaux, eh bien, on a un petit noyau de conservation qui est illustré là. Oui, parce que les amphibiens et les oiseaux, ils ont des doigts, ils ont des mains, ils ont des ailes, ils ont des membres antérieurs, des membres postérieurs. Quand on passe aux poissons, on n'a plus rien, parce que les poissons, évidemment, ont des nageoires pectorales, mais n'ont pas la partie distale des nageoires pectorales. Donc, en fait, les poissons sont naturellement achéiropodes, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas tout à fait exact. Mais en faisant cet alignement de séquence, en fait, ces auteurs s'aperçoivent qu'il y a une autre séquence à côté qui semble conservée. Alors, un point intéressant, hein, c'est que vous allez me dire, oui, mais elle n'est conservée ni chez les oiseaux, ni chez les amphibiens. Et ce n'est pas discuté dans la publication. Mais c'est une séquence qui est également conservée. Et ces auteurs vont se dire peut-être, en fait, que cette séquence a une fonction dans ce contact entre cet enhancer et ce promoteur SAL1 qui est à 410 paires de bases. Et donc, pour évaluer cette fonction, ce que ces auteurs vont faire, c'est qu'ils vont remettre cet enhancer à la place de l'enhancer de Sonic Hedgehog, mais cette fois plus cette petite séquence. D'accord ? Donc, au lieu de mettre simplement l'enhancer à la place de Sonic Hedgehog, ils vont mettre cet enhancer plus cette séquence. Alors, ils vont appeler cette séquence REX pour Range Extender. Donc, ça vous donne déjà le résultat, c'est-à-dire une séquence qui rallonge le domaine d'action, Range Extender. Hein? Et quand ils font ça, eh bien, ils s'aperçoivent que cette fois, l'enhancer fonctionne. Vous voyez, activation de Sonic Hedgehog et surtout polydactylie. Alors, pourquoi polydactylie ? Je pense que ça devrait être compréhensible maintenant parce que c'est un enhancer qui est plus fort que l'enhancer de Sonic Hedgehog, qui n'est pas autant restreint que celui de Sonic Hedgehog, ce qui n'est pas forcément visible ici. Et donc, on est dans une situation où on est en surproduction de Sonic Hedgehog. Et c'est pour ça qu'on a non seulement des doigts qui réapparaissent, mais on a une polydactylie. Cette séquence REX, en elle-même, n'a aucun pouvoir de régulation. Alors ça, c'est ce qui est montré ici. Quand ils mettent uniquement la séquence REX en amont du promoteur de Sonic Hedgehog, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc ce n'est pas une séquence enhancer en elle-même. C'est une séquence qui semble être nécessaire pour faire le pont entre la séquence enhancer et le promoteur. Comme cette séquence CTCF, ces morceaux contenant des CTCF que je vous montrais tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas de CTCF dans cette séquence. Alors les auteurs vont aller vraiment vérifier l'efficacité de cette séquence, cette fois en prenant le promoteur qui fonctionne avec la plus grande proximité au promoteur. Ils vont prendre cet enhancer-là qui fonctionne à 71 kilobases, donc vraiment un enhancer qui est très proche du promoteur, qui est tellement proche en fait que probablement il n'y a pas vraiment besoin de quelques systèmes que ce soit pour qu'il puisse contacter le promoteur. Hein. Alors évidemment, quand cet enhancer est mis à la place de l'enhancer Sonic Hedgehog, il ne fonctionne pas. Eh bien, quand il rajoute cette séquence REX à côté de ce promoteur, vous voyez que là encore, ça fonctionne et vous avez une polydactylie. Donc on a ici une séquence. Alors la séquence ensuite est caractérisée, les facteurs qui s'y lient, etc., peu importe. Mais on a ici une séquence qui n'est pas dépendante de CTCF, qui ne semble pas vraiment être dépendante d'une structure chromatinienne et qui semble être capable, en tout cas dans ce contexte, d'apporter un enhancer à son promoteur. Alors j'aimerais maintenant, encore plus rapidement, vous présenter un deuxième cas de figure qui cette fois touche une protéine, en fait, qui s'appelle LDB1. Là encore, une étude vraiment très récente. Mais la vraie raison pour laquelle je voulais vous présenter cette étude, c'est qu'en fait, elle met en œuvre une technologie qui est très nouvelle et qui est de plus en plus utilisée dans des systèmes cellulaires et même bientôt dans des systèmes un peu plus compliqués, qui est ce qu'on appelle la technologie du dégron. Alors un dégron, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de peptide, un morceau de protéine. Ça peut être plusieurs différents. Hein. Ça peut être même une structure, un petit morceau de structure d'une protéine qui, en fait, va aider à la dégradation de cette protéine. D'où le mot dégron. Depuis quelques années, en fait, les gens ont beaucoup travaillé sur la technologie ces dégrons, et ont développé un type de dégron qui est conditionnel à la présence de l'auxine. L'auxine, c'est une hormone végétale, vous en avez peut-être entendu parler, qui est une hormone de croissance végétale qui n'a vraiment rien à voir avec les animaux. Nous n'avons pas d'auxine, nous ne savons pas ce que c'est que l'auxine. Et ces développements technologiques sont tels qu'en fait, on peut aujourd'hui fusionner un dégron particulier à une protéine. C'est ce que vous voyez là, cette protéine-là, verte, qui est une protéine cible, une protéine que vous aimeriez dégrader, vous aimeriez enlever de votre système cellulaire. Donc vous pouvez fusionner un dégron particulier qui n'est pas actif quand il n'y a pas d'auxine. Quand vous rajoutez cette hormone végétale dans le système, cela va devenir actif, le dégron va emporter cette protéine vers la machinerie d'ubiquitination, et la protéine multi-ubiquitinée va être envoyée dans le protéosome, vers des lysosomes, pour être dégradée. L'ubiquitine, en un mot, c'est une modification post-translationnelle. Donc, une fois que la protéine est produite, il y a des tas de modifications qui arrivent. On a parlé d'acétylation pour les histones. On a parlé de méthylation pour les histones et tout. Là, c'est différent. Là, c'est une protéine qui est collée à la protéine. Une petite protéine, l'ubiquitine, 75 aminoacides. Et vous accumulez cette protéine et c'est un signal de mort, en fait. Ça veut dire que l'ubiquitine va emporter la protéine vers le protéasome où ça va être dégradé. Et donc, ce système, vous voyez, permet, en fait, une fois que vous avez bricolé un peu votre protéine en rajoutant des grons, etc., permet, en piptant de l'auxine dans votre système de culture, de dégrader votre protéine. Alors, le grand avantage de ce système, ce qui est vraiment la raison pour laquelle il est vraiment utilisé aujourd'hui, il est en bas, là. C'est que, en fait, quand vous enlevez l'auxine, quand vous nettoyez, vous changez de milieu, la protéine revient, évidemment, parce que ça ne touche pas l'ARN, ça ne touche pas le gène. Donc c'est un système qui est inductible et c'est un système qui est réversible. Et ça, il y en a relativement peu, en fait, en biologie, pour pouvoir décider que pendant cette fenêtre de temps, j'enlève cette protéine. Alors comme d'habitude, c'est magnifique sur l'image, sur la diapositive, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend quand même quelques heures, une dizaine d'heures, si vous voulez vraiment enlever toute la protéine et puis il en reste toujours un tout petit peu. Donc, il y a quelques contraintes, en fait. Mais c'est vrai que c'est un système qui est utilisé vraiment maintenant de plus en plus. Alors, ces auteurs vont l'utiliser pour analyser la fonction d'une protéine qui découvre en étudiant la régulation des gènes de la bêta-globine. On n'est plus dans l'alpha-globine, qu'on a discuté il y a deux semaines, mais de la bêta-globine. Alors, peu importe, ils s'aperçoivent que c'est une protéine qui est importante pour la régulation de ces gènes. Et ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de voir ce qui se passe avec cette protéine qui est capable de faire des loops, de mettre en contact un promoteur et un enhancer. Est-ce que cette protéine peut le faire en absence de CTCF, en absence de coésine, en absence des deux? Est-ce que CTCF peut faire des loops en absence de LDB1, etc.? Parce que chaque fois, ils peuvent prendre des cellules qui sont dégrenées, si vous voulez, qui ont du dégron, soit dans CTCF, soit dans la coésine, soit dans LBD1, et puis enlever ces protéines pendant un temps donné. Et c'est donc cette étude du laboratoire de Günther Blobel qui est une étude intéressante. Et je vais directement en conclusion. Ils s'aperçoivent en fait qu'il y a des cas de figure multiples. Ils s'aperçoivent que, par exemple, LDB1, cette protéine, est capable de faire des loops, d'apporter un promoteur, un enhancer proche du promoteur, en absence complète de CTCF et de la coésine. Donc ça veut dire que cette protéine seule peut probablement reconnaître des facteurs qui sont liés aux enhancers, liés aux promoteurs, et les coller ensemble. Mais il y a d'autres cas où les loops sont dépendants à la fois de ces TCF et de la coésine. Comment ils font ça? C'est simple, hein. En fait, ils traitent avec l'auxine et ils regardent les profils de conformation de chromosomes. Hein. Ils regardent les loops. Ils regardent les loops qui sont à ce locus. Ils se disent, est-ce que je peux avoir un loop quand j'enlève CTCF? Est-ce que je peux avoir un loop quand j'enlève la coésine? Ils s'aperçoivent qu'en enlevant CTCF et la coésine, ils ont toujours quelques loops qui sont faits. Quand ils enlèvent LDB1, ces loops ils disparaissent. Donc, conclusion, LDB1 est suffisante pour faire quelques loops, mais pas tous. Ils s'aperçoivent aussi, ici, c'est une autre configuration, vous voyez que ce sont des loops qui sont dépendants de la coésine, mais qui sont indépendants de CTCF. Vous vous souvenez, la coésine va extruder l'ADN, et puis CTCF va bloquer. Mais on peut très bien imaginer, comme vous voyez sur le schéma ici, que lorsque vous extrudez l'ADN, à un moment, vous allez avoir un promoteur et un enhancer qui vont être à proximité, et même si vous ne bloquez pas avec CTCF, ça va être suffisant en présence de LDB1, ça va être suffisant pour avoir un contact qui soit suffisamment productif pour démarrer la transcription. Hein, donc vous voyez qu'il y a des cas de figure qui sont vraiment extrêmement différents. Tout cela pour dire que CTCF, la coésine, sont certainement très importants, mais c'est également certainement pas la seule solution, le seul mécanisme pour faire des boucles. Et d'ailleurs, je dois vous mentionner, je ne vais pas rendre toute l'affaire trop confuse, mais j'ai lu cette semaine, un éditorial d'un collègue extrêmement connu, un des co-découvreurs presque de la méthylation de l'ADN, en fait, qui lui prend une vue totalement différente et qui dit, finalement, toutes ces histoires de CTCF et de coésine, c'est peut-être pas tellement important pour mettre en contact les enhancers et les promoteurs, c'est important pour faire respirer la chromatine. Imaginez un système qui est tellement impacté, vous avez tout le temps besoin de créer des espaces, de créer des ouvertures pour que les choses puissent se passer. Il dit c'est ça que fait CTCF et la coésine, c'est arrêter avec vos histoires de régulation génétique, c'est probablement quelque chose de très très générique. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de discussions dans ce domaine, bien qu'il faut tout de même le dire, les évidences qui soutiennent la formation de loops et le rapprochement enhancer promoteur par CTCF coésine sont quand même très très robustes. Voilà, j'aimerais maintenant terminer ce cours en vous parlant de deux aspects différents qui, assez rapidement, mais qui tous deux probablement mériteraient des cours à part entière, en fait. C'est à la fois ce domaine des enhanceropathies et puis ce domaine absolument sans fond qui est celui des éléments transposables dans le contexte de la régulation génétique, bien sûr. Alors, les enhanceropathies, c'est un domaine qui est vraiment, vraiment intéressant parce que, en fait, il nous fait revenir 30 ans en arrière lorsque l'on a commencé à pouvoir s'intéresser aux causes génétiques des maladies. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très rapidement, les maladies monogéniques, beaucoup de maladies monogéniques ont été isolées. Prenez par exemple la mucoviscidose, les dystrophies musculaires, donc des maladies qui dépendent de mutations d'un gène. Et très rapidement, on a pu dire, voilà, c'est ce gène qui est responsable, tel est ton, etc. Ensuite, s'est présenté le problème des maladies polygéniques. Les maladies polygéniques sont des maladies où plusieurs gènes sont responsables avec des parts différentes, des pourcentages différents. Et ça introduit un côté quantitatif dans l'étude de la génétique, qui est un côté extrêmement difficile à envisager, d'où le nom de QTL, donc de locus génétique à trait quantitatif, hein, c'est-à-dire cette maladie, elle dépend de 15 locus différents, un qui est preneur à 5%, 15%, 20%, 18%, 13%. Et là, on est vraiment dans une grande difficulté, et 40 ans plus tard, il faut quand même bien l'avouer, c'est une approche qui n'a pas encore donné toutes les attentes, hein, avoir le nombre de maladies à trait complexe qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre et à soigner aujourd'hui. Eh bien, avec les enhancers, on est dans la même situation. On est retour à la case départ, où aujourd'hui, évidemment, on peut trouver des tas de maladies, de syndromes, qui sont dus à un enhancer qui est enlevé. Je vais vous montrer un exemple. Mais lorsque l'on pense aux possibilités quantitatives qui existent, c'est-à-dire à une cinquantaine d'enhancers qui, tout au long de l'évolution, pourraient accumuler des mutations ponctuelles qui changeraient leur efficacité de quelques pourcents, et puis soudainement on atteindrait un seuil qui serait comparable à de la génétique des traits complexes, hein, mais de la génétique des traits d'enhancers complexes. C'est ce qu'on appelle des EQTL, donc des QTL d'enhancers, en fait. Là, on rentre vraiment dans un domaine qui est compliqué et qui va probablement encore demander plusieurs années de travail pour dire, voilà, ce syndrome, en fait, eh bien, il implique toute une série de gènes. Et là, je ne vous parle que d'une catégorie. Mais on peut très bien imaginer une maladie à trait complexe qui impliquerait à la fois des polymorphismes dans des gènes et des polymorphismes dans des enhancers. Donc, ça va compliquer l'affaire. Les enhanceropathies, c'est vraiment un domaine en plein développement. Il y a maintenant des congrès qui sont organisés là-dessus. Et je vous ai mis ici peut-être quatre formes de ces enhanceropathies qui sont, me semble-t-il, les formes les plus représentées. Il y a d'abord des mutations qui touchent des protéines qui lient les enhancers. Et là, généralement, on est dans des phénotypes sévères, parce que, on l'a vu, beaucoup de ces protéines sont des protéines génériques. Regardez par exemple le syndrome de Rubinstein-Tybee, qui touche des mutations dans P300. Si vous mutez P300, donc cette acétyltransférase, hein, vous imaginez les effets, ça va toucher partout où vous avez besoin de cette acétyltransférase. Donc ce sont généralement des cas de figure très sévères. Il y a bien sûr les mutations dans la séquence des enhancers. Et là, on n'en connaît pas énormément, je dois dire. Le cas de figure, bien entendu, c'est Sonic Hedgehog. On en revient aux polydactylies, etc. Mais on comprend pourquoi, maintenant, qu'on a vu un peu la grammaire, souvenez-vous, et la syntaxe des enhancers. Eh bien, le risque qu'on prend quand on a un polymorphisme dans la séquence codante d'un gène, le risque qu'on prend d'avoir une modification de la protéine est beaucoup plus grand que le risque qu'on prend quand on va changer une base dans un enhancer. Souvenez-vous de l'alignement de séquence que je vous montrais tout à l'heure. On se dit, si on enlève un petit bâton noir dans cet enhancer, ça ne va peut-être pas trop porter à conséquence. En tout cas, sur un temps court. Sur un temps long, évolutif, on va commencer à accumuler ces polymorphismes et ça peut avoir un effet. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on connaît relativement peu de cas de figure où des petits polymorphismes dans des enhancers conduisent à des effets pathologiques importants. Par contre, alors, on a les délétions des séquences enhancers. La chéiropodia, encore une fois, sur Sonic Hedgehog. Je vais vous montrer un exemple intéressant. Et puis surtout, alors, des remaniements chromosomiques. Et je vais vous montrer un cas de figure. Parce que maintenant qu'on a vu que ces enhancers peuvent travailler à grande distance, eh bien, on comprend aisément que chaque fois qu'il y a un remaniement chromosomique, et on en a beaucoup, une délétion, une inversion, une translocation, eh bien, on prend toujours un risque, non pas d'affecter le gène, non pas d'affecter l'enhancer, mais d'affecter la topologie, les relations entre le gène et l'enhancer. Alors, laissez-moi vous dire un tout petit mot sur une étude que là encore, je trouve intéressante, surtout sur ces conclusions. C'est une étude qui touche une famille de gènes qui s'appelle les gènes DLX. C'est une famille qui en elle-même est assez intéressante, puisque vous voyez que sur trois chromosomes différents, on a deux gènes qui se font face à face. DLX1, DLX2, DLX3, DLX4, DLX5, DLX6. Ça veut dire en fait que dans un ancêtre des vertébrés, il y a eu une duplication horizontale du gène. Donc on s'est retrouvé avec deux gènes DLX. Hein. Et puis au moment où les vertébrés ont amplifié leur génome deux fois, hein, à la base des vertébrés, eh bien ça a été amplifié deux fois. Puis il y a une copie qui était perdue, puisqu'il n'y a que trois copies en fait, alors qu'il devrait y en avoir quatre, mais trois copies. Et en fait, ces gènes sont très importants pendant le développement, et en particulier DLX5 et DLX6, dans le développement de la face, de l'appareil auditif. Et donc, le groupe de Cynthia Morton, il y a quelques années, analyse une famille qui a un problème de morphologie de la face et des troubles auditifs. Et ce groupe va trouver, de façon cytologique, une inversion. Pour qu'on voit une inversion de façon cytologique, il faut vraiment qu'elle soit importante. Hein, donc c'est quelque chose qu'on peut voir sur le chromosome. Donc il y a une inversion. Et à un des points de cassure de l'inversion, on a un morceau d'ADN qui est perdu. Ça arrive très souvent. Les inversions, c'est des recombinaisons, etc. Donc on perd un morceau d'ADN. Et ce morceau perdu, qui à 5115 paires de bases, donc un petit morceau, se trouve en fait à proximité de ces deux gènes DLX6, DLX5. Alors ce qui suggère à ces auteurs que ça pourrait affecter ces gènes, évidemment c'est le phénotype, parce que les souris qui sont mutantes pour le gène DLX5 ont des phénotypes, alors c'est difficile de dire comparable dans ce cas-là, parce que la face d'une souris est quand même relativement différente d'une face humaine, hein, mais elles ont des malformations de la face et des problèmes d'audition. Donc il y a une sorte de convergence, en fait, on se dit, voilà, aussi les délétions soit de DLX5, soit de DLX6 impliquent des mêmes caractéristiques, donc qui touchent au système auditif et à la morphogenèse de la face. Cette séquence, ils vont l'aligner, regarder, il y a des conservations entre la souris et le rat. Et donc, ils suggèrent dans cette étude que cette délétion va induire une dérégulation des gènes, soit des LX5, soit des LX6. Le titre est assez indicatif à cet égard. Vous voyez, délétion d'un enhancer, near, proche. Donc là, on n'est pas dans un titre où il est écrit délétion de l'enhancer de DLX produit ça. La délétion d'un enhancer proche des locus DLX dans une famille qui a des problèmes auditifs et des problèmes de morphogenèse faciale. Donc il n'y a aucune causalité qui est présenté dans le titre. Mais évidemment, le papier lui-même introduit une relation de causalité. Donc il y a une suggestion très forte que cette délétion va affecter les gènes DLX5 et DLX6, et ce n'est pas démontré. Et en fait, je dois vous dire que j'ai regardé rapidement s'il y avait eu des suites à cette étude, et je ne pense pas que ça ait été étudié dans le détail. probablement parce que les gens trouvent que les évidences sont suffisamment fortes pour perdre du temps à aller survérifier. Mais en fait, on ne sait toujours pas si c'est un enhancer vraiment qui est spécialisé pour DLX5 ou pour DLX6 et comment il fonctionne. La plupart des enhancers de DLX1, 2, 2, 3, 4 et 5, 6 se trouvent entre les deux gènes. Donc je pense que ce serait un projet intéressant aujourd'hui à aller réexaminer ce cas pour voir ce qui se passe. Le deuxième exemple touche à des remaniements chromosomiques. Et ça, c'est un exemple très intéressant du groupe de Stefan Mundlos à Berlin, c'est dans le travail de Dario Lupianez. Et en fait, là encore, ce sont des patients, trois patients, vous voyez là, qui présentent une brachydactylie. Une brachydactylie, c'est des patients qui ont les doigts trop courts. Et on analyse l'ADN de ces patients et on trouve que ces patients ont des délétions, vous voyez, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui ont des délétions qui couvrent un locus qui s'appelle EPHA4. C'est un récepteur pour une protéine qui s'appelle une éphrine. Et ce sont des protéines qui sont très importantes pour le guidage axonal, pour la migration cellulaire, donc des protéines qui sont utilisées toujours pour guider des mouvements. A priori, rien à voir avec la morphogenèse des doigts. Si on regarde une carte génomique, on s'aperçoit que ce gène est localisé à proximité d'un autre gène qui s'appelle PAX3. On a parlé de PAX, hein, quelques occasions. Là encore, c'est un gène qui est actif dans le système nerveux et qui n'est pas connu pour être actif dans les doigts. Et puis, de l'autre côté, on a ces deux gènes qui sont très importants aussi, WNT6, une voie de signalisation, et puis Indian Hedgehog, une autre voie de signalisation, qui s'occupe entre autres de l'ossification, etc. Et donc le challenge, c'est évidemment de comprendre pourquoi ces délétions vont induire une brachydactylie. Et la première chose qui est faite, en fait, c'est de regarder la structure du locus du point de vue de la chromatine. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une structure qui est tirée de cellules ES, de cellules embryonnaires. À l'époque, c'est la structure qui était disponible. Et on voit ces TAD qui ne sont pas très, très bien définis. Et donc, les auteurs vont faire une étude par 4C, exactement la même que je vous ai montré pour Sonic Hedgehog. Hein. Donc, ils vont se positionner, ils vont positionner une sonde sur le promoteur WNT, sur Indian Hedgehog, sur EPHA4 et sur PAX3. Et chaque fois, ils posent la question, qu'est-ce que je contacte? Qu'est-ce que je touche? Hein. Et vous voyez que le locus est très, très fortement compartimentalisé. C'est une très belle figure, en fait, que j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, que WNT6, ici, et Indian Hedgehog, ces deux gènes qui sont très voisins, vont toucher des séquences qui vont s'arrêter de façon très abrupte, hein, à la frontière de ces TAD. Donc, ils ont leur domaine de régulation, ils ne vont pas à l'extérieur. Et pareil pour le récepteur à l'éphrine A4, vous voyez, c'est vraiment extrêmement précis. Hein. Ils vont toucher toute cette partie-là, mais ils ne vont pas dépasser, Pareil pour PAX. Donc là, vous voyez un très bon exemple, hein, de cette structure de la chromatine en sous-domaine qu'on a beaucoup discuté. Et là, on voit vraiment que c'est des domaines dans lesquels ces gènes vont interagir, mais ils ne vont pas passer des frontières. Hein, chacun va faire son business dans son domaine, et pas aller regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, quid des délétions? Bien, en fait, si on revient sur ces délétions, on voit que les points de cassure qui sont de ce côté-là sont tous dans ce TAD. Par contre, vous voyez que les points de cassure qui sont de ce côté-là, en fait, incluent la frontière de ce TAD. Donc, quand on va faire la délétion, on va enlever le point de frontière entre ces deux domaines. Et ces deux domaines vont fusionner. Et c'est ce que les auteurs vont voir ici. Donc cette délétion-là, voilà. Et maintenant, vous voyez que quand ils se mettent sur Pax 3, dans la situation normale, les contacts sont réduits à cette région-là. Quand ils se mettent sur Pax 3, dans la situation délétée, tous ces contacts-là apparaissent. Cette partie-là, elle est absente maintenant, hein, elle est dans la délétion, là. Donc en fait, cette partie-là, que vous voyez là, est approchée de ce gène Pax 3, est à proximité maintenant de ce gène Pax 3. Est-ce que c'est clair à visualiser, hein? Donc en fait, vous voyez que ce gène Pax 3 qui était dans son petit domaine, avec sa régulation, maintenant se voit rajouter cette partie-là qui, en fait, est collée ici. On ne voit pas qu'elle est collée parce que cette partie-là est montrée de façon bioinformatique, mais en fait, elle est enlevée. N'est-ce pas? Cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, cette partie-là, ce sont des enhancers pour le gène du récepteur de l'EphrinA4. Ce récepteur, est-ce qu'il est vraiment exprimé dans les doigts? Bien oui, il l'est. Regardez ici. Il l'est probablement parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir les terminaisons neurales qui arrivent, hein, dans le membre. Et c'est probablement pour ça qu'il y a ces récepteurs à l'EphrinA qui vont guider cette migration neuronale, etc. Donc, ce gène-là est exprimé dans la région qui va donner les doigts. Il est exprimé dans cette région sous le contrôle des enhancers qui sont ici. Quand vous enlevez ce morceau, le gène s'en va, les enhancers qui sont ici vont venir se coller à Pax 3, et Pax 3 va être exprimé, regardez ici, va être exprimé dans les doigts. Pax 3, normalement, n'est pas du tout exprimé dans les doigts. Il n'a rien à voir avec les doigts. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver avec une protéine de régulation, Pax 3, qui est surexprimée dans les doigts alors qu'elle n'a rien à y faire. Et ça va donner un phénotype qui est un phénotype de brachydactylie. Donc vous voyez la situation qui est quand même assez complexe, où on a deux TAD dans lesquels des gènes très différents fonctionnent tranquillement, indépendamment l'un de l'autre. Une délétion. Si cette délétion avait eu un point de cassure ici, quelques kilobases en amont, et que la frontière n'avait pas été enlevée, pas de brachydactylie. Si la frontière avait été... Mais la frontière est enlevée. Vous voyez, ça passe juste ici. Ici. Donc cette frontière-là, qui est indiquée par cette ligne trétillée, est enlevée. Ces enhancers vont venir se coller là et ils vont activer Pax 3. Et donc maintenant, l'expression de Pax 3 va ressembler à l'expression du récepteur de l'EphrinA4. C'est un gain de fonction d'un gène qui est dû en fait à une perte d'expression d'un autre gène, à un rapprochement. D'un point de vue génétique, c'est extrêmement difficile à qualifier. Vous savez, les généticiens mettent des noms à des allèles, etc. Là, c'est extrêmement compliqué à qualifier parce qu'on a un gain de fonction, une perte de fonction, une délétion, etc. Mais c'est une configuration génétique qui aurait été totalement incompréhensible il y a encore une vingtaine d'années. On aurait vu ça, c'était incompréhensible. Aujourd'hui, c'est évident. Remaniement, fusion de deux TAD, les enhancers qui travaillent, mauvaise expression, du mauvais gène au mauvais endroit, et on a un phénotype. Et on le voit très bien ici, on va maintenant se positionner, vous voyez, en 4C, on va se positionner sur le gène F4, tous ces enhancers-là, qui normalement ne touchent pas le gène PAX3, quand vous enlevez cette partie-là, ces enhancers-là, hop, vont agir sur PAX3. C'est ce qu'on appelle en jargon un enhancer hijacking, en fait, c'est ce gène PAX3 qui va récupérer une régulation qu'il ne devrait pas récupérer. C'est une situation aussi, j'aimerais quand même mentionner rapidement, qui a été comprise grâce à un travail très important chez la souris, parce qu'il se trouve que le locus, ce locus, est extrêmement synthénique entre les humains et la souris, donc on a une copie des deux loci, en fait, ce qui fait qu'on peut travailler sur la souris pour atteindre des conclusions qui expliquent le phénotype qu'on voit chez les humains. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les loci, n'est-ce pas ? On peut se trouver dans des configurations chromosomiques où on n'est pas dans des régions extrêmement synthéniques. Et là, évidemment, les explications sont plus compliquées. Voilà, je voulais terminer maintenant avec quelques minutes sur l'importance des éléments transposables dans ces phénomènes de régulation génétique. Et aussi dans leur origine, en fait, qui probablement est vraiment la partie la plus importante de l'étude de ces transposons. Alors, laissez-moi d'abord vous rappeler que c'est un champ de recherche qui est encore très, très jeune. Hein. En fait, ça démarre vraiment dans les années 90, hein, avec un travail totalement extraordinaire de Barbara McClintock, hein, qui, toute seule, pendant pratiquement 40 ans, va observer du maïs pour en tirer des conclusions qui sont absolument invraisemblables. Et ces transposons, mais ils sont partout. Et on estime aujourd'hui que, il y a encore quelques années, on disait 50%, aujourd'hui on est près de 55-60% de notre génome qui dérive d'éléments transposables. Vous voyez ici un schéma qui vous montre en haut, 1,5% qui est notre part d'ADN qui est codante, hein, pour des gènes. Vous voyez ici à peu près 25% qui consiste dans des introns, des paysages de régulation, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein, c'est de l'ADN sans fonction déterminée, on est maintenant à 15%, vous voyez que ça se réduit, hein, d'année en année, puisqu'on... Peu à peu, on arrive à comprendre ce qu'on appelait de ce junk DNA, hein, qu'on appelait de l'ADN poubelle. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des poubelles. Là-dedans. Et puis, toute cette partie-là, des éléments transposables. 44% des éléments, des repeats à l'U, des repeats L1, etc. Ces éléments transposons, ils viennent en fait sous deux grandes formes différentes. Comme vous avez dû l'entendre sans doute. Il y a des formes qui sont des formes copiées, donc des transposons ADN qui transposent sous la forme d'ADN. Donc on a un morceau d'ADN double brin qui transpose, qui est copié, qui transpose, qui va s'insérer. C'est ce qu'on appelle un copy-paste mécanisme. Alors c'est une minorité des transposons que l'on connaît aujourd'hui. L'autre forme, qui est vraiment la forme très très majoritaire, c'est une forme qui passe par une copie d'ARN, hein, ces fameux rétrotransposons, où il va y avoir un ARN qui est produit, qui va être transcrit grâce à une transcriptase inverse, hein, c'est très similaire aux rétrovirus, hein, qui vont s'autocopier, faire un deuxième brin, et puis s'insérer comme ADN double brin. Ce sont des rétrotransposons, c'est une très très grande majorité des éléments transposables. Vous voyez ici sur une revue que j'ai pris du travail de Cédric Féchotte, comme les images que je vais vous montrer, les images suivantes que je vais vous montrer. Vous voyez que ce qu'on appelle cette classe 1 des rétrotransposons, en fait, est très proéminente. Regardez ici les éléments line et les éléments sign. Vous pouvez regarder, c'est en fait toute cette partie-là. Hein. Donc c'est vraiment les transposons sous forme d'ADN double brin, c'est la partie congrue des éléments transposables. Et il semble aujourd'hui que une très très grande partie de notre génome est faite de ces éléments de type rétrotransposon. Ces éléments sont vraiment étudiés de façon efficace aujourd'hui pour une raison simple en fait. C'est que la technologie nécessaire pour aller chercher ces éléments et les étudier commence seulement à être vraiment développée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'imaginez, comment voulez-vous travailler avec 10 000 copies d'une même séquence d'ADN ? C'est vraiment un casse-tête. Comment voulez-vous faire les différences ? Même le séquençage des génomes a eu des problèmes avec la présence d'éléments transposables. Comment est-ce que vous savez si ces 10 éléments sont celui-ci ou celui-là quand vous séquencez quelque chose ? Donc c'est vraiment des approches qui sont extrêmement compliquées. Et en particulier, les outils bioinformatiques nécessaires ont été développés, je dirais, ces 10 dernières années, finalement. Et maintenant, on peut vraiment commencer à étudier ces éléments. Alors, dans cette revue du laboratoire de Cédric Féchaud, en fait, il fait un listing que je trouve intéressant sur les 10 éléments importants à considérer quand on parle d'éléments transposables. D'abord, il y a beaucoup de formes hein, de différentes d'éléments transposables, même au sein de cette famille des rétrotransposons. Leur distribution génomique n'est pas aléatoire. C'est évidemment une source très importante de mutations, de polymorphismes, probablement la plus importante. Ça cause beaucoup de réarrangements chromosomiques. Pourquoi ? Je vous ai parlé de délétion, je vous ai parlé d'inversion. Comment se passent les délétions et les inversions dans nos génomes ? Très généralement, parce que vous avez des séquences qui sont similaires. Quand vous avez des séquences similaires, quand vous alignez votre ADN, eh bien vous allez avoir des erreurs. Une séquence va contacter celle-ci plutôt que celle-là. Si vous avez une erreur, ça va faire une boucle. Sur un chromosome, la boucle va partir, vous allez avoir une délétion. Sur l'autre, vous allez avoir une duplication. Donc en fait, ces éléments transposables ont été une source de remaniement chromosomique extrêmement importante. Et on pense que chaque fois qu'on a ce qu'on appelle un CNV, un variant, un copy number variant, donc une variation de copie de notre ADN, des petites duplications, comme on a tous ici, hein, de façon différente, des petites délétions, des petites duplications, en grande partie, c'est dû à la présence de ces séquences répétées. Il y a une balance très subtile entre l'activation et la répression. C'est vraiment un domaine extrêmement intéressant, c'est le domaine de l'évolution, du fitness de ces séquences. Hein, parce que ces séquences, alors je ne vais pas vous en parler, mais ces séquences transposons sont généralement très très contrôlées par notre génome. Nous avons des systèmes de répression. On les silence, on les rend silencieuses. Mais si on les rend trop silencieuses, elles disparaissent. Et visiblement, ces séquences ont eu un certain fitness dans notre évolution. Elles ont été utiles. Donc on a une balance qui est très subtile avec ces éléments transposons, où on ne veut pas qu'ils soient trop actifs, on ne veut pas qu'ils mettent vraiment la misère partout dans nos chromosomes. Mais d'un autre côté, on aimerait quand même les laisser nous donner des opportunités évolutives. Je veux dire, j'y mets un peu de finalisme là-dedans, mais... Donc il y a une balance évolutive qui est extrêmement intéressante entre empêcher ces transposons d'être actifs ou les laisser être actifs. Le résultat, c'est qu'il y en a toujours. Les mutations, on les trouve à la fois dans les cellules somatiques et dans les cellules germinales. Dans les cellules somatiques, évidemment, ça porte moins à conséquence. Un point important, c'est que les transposons peuvent interférer sans nécessairement transposer. Ils sont là. Ils sont des éléments d'ADN qui sont là. Et ce n'est pas forcément en sautant ce qui arrive quand même très rarement, mais ce n'est pas forcément en sautant qu'ils vont avoir une fonction particulière. Ils peuvent avoir des fonctions simplement en étant là. Comme on va le voir, ce sont des éléments qui peuvent même créer parfois des gènes nouveaux. Ils peuvent évidemment modifier des régulations génétiques. Et puis, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'ils ont besoin d'un outillage très spécifique qui est en train d'être développé. Alors, j'aimerais rapidement vous parler vraiment de ces deux aspects qui nous intéressent, hein, c'est-à-dire d'un point de vue évolutif, comment créer des gènes et surtout comment modifier des régulations génétiques. Alors, c'est encore une fois une publication de ce même groupe, de Cédric Féchot, qui nous rappelle, premièrement, que ces éléments transposables, ils contiennent des séquences d'ADN qui vont recruter la machinerie de transcription, comme des rétrovirus. Ces éléments transposables n'ont pas avec eux tout ce qu'il faut pour leur survie. Donc ils vont recruter les machineries qui sont à disposition dans notre génome. Et généralement, c'est nécessaire pour leur transposition. Mais ces séquences répétées peuvent parfaitement rester actives bien après la perte de la capacité à transposer. Hein, c'est donc quelque chose qui est vraiment très basique, mais qui est important de comprendre. On pense toujours que les éléments transposons, ils transposent, et c'est comme ça qu'ils exercent une fonction particulière, mais des éléments qui ont transposé il y a des milliers d'années peuvent avoir perdu la capacité de transposer, ce qui est l'immense majorité des transposons, évidemment, mais garder une fonction dans le génome, une fonction de régulation, une fonction, etc. Hein. Par exemple, les éléments transposables peuvent apporter des promoteurs ou des enhancers. Ils peuvent modifier les architectures chromatiniennes et même produire de nouveaux gènes. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer avec quelques derniers exemples avant de terminer ce cours. D'un point de vue évolutif, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous êtes intéressé, je vous recommande de lire cette petite revue de Cédric Féchot et de Johanna Vizoka qui justement discute ce côté évolutif, qui dit qu'il est probable que de nouveaux transposons ont été contrôlés par des systèmes de défense conduisant à leur répression. Donc on a un nouveau transposon qui arrive, les systèmes de défense se mettent en marche, ils vont contrôler ce transposon avec des systèmes qui reconnaissent, etc. Et une fois que ces transposons sont inactivés, des mutations vont les attaquer, évidemment, puisqu'il n'y a plus de pression sélective pour les maintenir. Et donc, ils vont les priver assez rapidement de leur propriété de transposer. Mais par contre, les activités de régulation vont rester. Donc, on voit à quel point, en fait, ces éléments ont deux côtés. Un côté terriblement négatif, selon où ils arrivent et ce qu'ils font, mais un côté qui peut être terriblement positif, selon où ils arrivent et ce qu'ils font. Et donc l'évolution a dû faire cette balance entre ces côtés positifs et ce côté négatif. Alors, quelques schémas pour vous montrer deux, trois cas de figure différents. Premier cas de figure, c'est évidemment le plus simple. C'est un transposon qui arrive et qui a un promoteur à l'intérieur, puisqu'il contient quelques gènes, évidemment, le transposon. Et il arrive à proximité d'un gène, et il va apporter l'élément promoteur. Donc ce gène qui n'était pas actif dans un tissu particulier va soudainement recevoir un promoteur qui va l'activer à un endroit où il ne faudrait pas être activé. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Un autre cas de figure, c'est un élément transposable qui apporte un enhancer. Et cet enhancer, comme on l'a vu, peut être plus ou moins proche d'un gène et va déclencher l'expression de ce gène, là encore, dans un endroit qui n'est pas forcément celui où le gène est normalement exprimé. Un autre cas de figure qui semble être assez courant, c'est ce transposon va produire un ARN qui est non codant. Et en fait, on sait aujourd'hui que les ARN non codants ont des fonctions vraiment multiples. Ils vont lier des tas de protéines, vont peut-être influencer la structure de la chromatine. Et donc, simplement en produisant un ARN non codant, ces transposons peuvent avoir un effet soit en cis, c'est-à-dire sur un gène qui est très proche. Imaginez par exemple un transposon qui arrive, qui va produire de l'ARN. Cet ARN va être reconnu par un système de contrôle de la chromatine, par exemple un système du genre polycombe, qui va avoir un effet négatif. Si un gène se trouve à côté, cet effet négatif va s'étendre et va affecter ce gène. Ça, c'est relativement classique, ça peut être en cis, ou ça peut être en trans. C'est-à-dire que cet ARN peut aller se balader et faire quelque chose sur d'autres locus génomiques. Et puis là, on peut avoir alors un effet direct de répression, c'est-à-dire le mécanisme de répression de l'hôte peut affecter un gène. Imaginez un transposon qui arrive à proximité d'un gène. L'hôte, le génome, va reconnaître ce transposon, va dire il faut l'arrêter. Donc on va venir avec une machinerie pour réprimer ce transposon. Mais le gène qui est tout près, il risque de souffrir de cette répression. Donc en empêchant le transposon, on va affecter un gène qui est voisin. Un des nombreux cas de figure. On pourrait dire, oui, mais ça n'arrive pas souvent. Sauf que lorsque l'on pense que le génome est fait de 50% ou de 60% de transposons, on se dit que ça a dû arriver de façon relativement massive. Les transposons peuvent aussi, évidemment, modifier la structure de la chromatine. Et en fait, il semble que, par exemple, les sites CTCF ont été apportés par un type de transposon. Et donc, on peut très bien imaginer que si on a un transposon qui arrive au milieu d'un domaine chromatinien et que ce transposon contient un site de liaison pour une protéine qui organise la chromatine, eh bien, ça va changer la structure chromatinienne. Donc, on voit que les actions, les fonctions de ces transposons peuvent vraiment avoir s'étendre à des processus extrêmement différents. Le domaine de liaison à l'ADN de la transposase d'un élément transposon peut fusionner avec un autre gène. Et ça peut carrément produire de nouvelles protéines de régulation. Un exemple qui est assez frappant, c'est que le domaine de liaison des protéines Pax, vous souvenez, on en a parlé à plusieurs reprises, donc les protéines Pax ont un domaine de liaison à l'ADN, ce domaine de liaison, en fait, semble être dérivé d'une transposase qui s'appelle TC1. Donc c'est un domaine, lorsqu'on le compare avec la séquence protéique d'une transposase, on se dit, mais probablement ce domaine dérive d'une transposase. Or, les transposases ont généralement la capacité de reconnaître leur transposon d'origine. Donc imaginez en fait qu'une protéine coopte un domaine de liaison d'une transposase, immédiatement cette protéine va déjà reconnaître les sites de liaison de cette transposase, multiples, puisque ces éléments transposables vont arriver en quantité X. Donc on s'aperçoit en fait du côté presque vertigineux des changements qui ont pu être apportés par ces éléments transposables. Vous voyez ici un exemple. Vous avez ce gène qui va arriver à proximité d'un facteur de transcription. Vous allez avoir une fusion et une production d'une nouvelle protéine. Donc en fait, les éléments transposables peuvent être à la source de la création de nouveaux gènes. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, peut-être passablement de facteurs de transcription, donc des gènes qui ont la capacité de lier l'ADN, le font au travers de séquences qui dérivent de la capacité des transposases, donc de ces éléments qui sont portés par les éléments transposables, de reconnaître l'ADN, puisqu'évidemment, il faut que ces transposases reconnaissent l'ADN. Pour l'instant, toutefois, j'aimerais dire que, vous voyez, une des conclusions de cette petite revue, qui disent que only a subset de ces éléments ont été vraiment démontrés de façon formelle comme ayant une influence claire sur la régulation. Il y a des cas qui sont très connus, mais ces cas sont quand même peu nombreux. Et je pense qu'il est tout de même fair de dire que pour l'instant, une influence vraiment robuste, physiologiquement significative d'un élément transposon sur un gène voisin n'a été observée que dans certains cas. On est dans une situation aujourd'hui où on arrive à étudier ces éléments transposables de façon beaucoup plus globale qu'auparavant, de voir d'où ils viennent, de voir où ils sont. Mais cela ne veut pas dire que chaque mois, on découvre que tel gène est régulé à l'origine par l'arrivée d'un élément transposable, etc. En fait, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. On verra dans le futur, peut-être qu'on a encore on révélera quelques surprises à cet égard concernant l'importance de ces éléments. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas encore une révolution dans ce domaine de la régulation génétique par des séquences enhancer. Voilà, je voulais m'arrêter là. Comme d'habitude, ce cours sera disponible dans sa totalité sur le site internet du Collège de France. Je vous remercie de votre présence. Je vous donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine, au mois de mars également. Je ne sais pas encore exactement quel sera le sujet du cours. Sortira dans les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite un bel été, puis une bonne fin d'année. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.